Oui, ce soir, on va célébrer une femme qui a été bien plus qu'une chanteuse, une véritable visionnaire, très en avance, peut-être même trop en avance sur son temps. On disait d'elle qu'elle était différente, et c'était vrai. She spit, it's nothing but a tram on train. Spit on. They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and maybe getting off humping the Johnny Hooker. Moonshine, the baby king and Jimmy Ray rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Thornton.
Talk about it, talk about
it. I'm talking about Lightning Hopkins. J'aime la pureté du blues, sa façon d'exprimer les choses sans détour. Voilà ce qu'a déclaré un jour la chanteuse, il y a bien longtemps, la chanteuse qu'on vient d'entendre, Betty Davis. Le blues qui a été son point de départ, mais pas son point d'arrivée, parce qu'entre les deux, elle a inventé quelque chose. Une expression totalement féminine du funk, une expression qu'elle a conçue, élaborée et incarnée de bout en bout. Oui, Betty Davis a inversé les rôles, c'est elle qui dirigeait et les hommes, ses accompagnateurs, se mettaient à son service et exécutaient. Betty Davis nous a quittés il y a un mois, à l'âge de 77. Alors son nom n'était certes pas connu du grand public, elle n'avait pas la notoriété, il s'en faut, d'une Aretha Franklin, ni même la voix, Mais ces dernières années, grâce aux rééditions de ses albums devenus introuvables et à la diffusion d'un documentaire qui s'appelle justement Betty 2. They Say I'm Different, comme la chanson qu'on vient d'entendre qui remonte à l'année 74, eh bien on a pris la mesure de son apport vraiment extraordinaire, visionnaire, dirais-je, à la musique populaire des années 70. En 3 albums, publiés en 3 ans, entre 1973 et 1975, bon, il y en a eu un 4e après, mais son moment était hélas déjà passé, eh bien, Betty Davis a accompli à elle toute seule une révolution. Laquelle ? Eh ben, plusieurs, en fait. Pour la première fois, une femme noire était la directrice musicale de ses enregistrements. Betty Davis n'avait pas appris la musique au conservatoire, c'est vrai, mais elle avait une sacrée oreille et savait exactement ce qu'elle voulait. Ainsi, comme elle avait à sa disposition les meilleurs musiciens de funk du circuit, elle leur dictait les arrangements qu'elle voulait. Comment ? Eh ben, elle avait chez elle un petit magnétophone à cassette. On faisait comme ça avant les téléphones portables pour enregistrer les idées qui vous venaient. Elle chantait tout, les lignes de basse, elle imaginait les rythmes, les riffs, enfin absolument tout, et les musiciens traduisaient et exécutaient. Alors, autre révolution, les paroles de ses chansons. L'amour, oui, mais sans plainte, sans complainte et sans métaphore. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La guerre impitoyable que se livrent les deux sexes et toute la crudité animale de l'amour physique, charnel. Parce que quand une femme y va, elle ne joue pas. Et Betty Davis y allait dans ses mots, comme dans ses interprétations, cris, éructations, feulements, elle y allait sans rien retenir. Et l'énergie sexuelle qu'elle dégageait était d'une rare puissance. Sur scène, elle se présentait, je rappelle que c'était quand même au milieu des années 70, surmontée d'une superbe coiffure afro en cuissarde et mini-short. Et sur la pochette d'un de ses albums, Nasty Gal, on la voit très fardée, la bouche ouverte, assise, les jambes écartées, juste vêtue d'une nuisette et de résille. Je rappelle donc qu'on était en 75. Certaines associations noires américaines ont alors protesté contre Betty Davis, estimant qu'elle projetait, je cite, une image dévalorisante de la femme noire. Alors comment en est-elle arrivée là ? Quel a été son chemin ? Et pourquoi a-t-elle disparu si longtemps ? C'est ce que je vous propose d'explorer au cours de ce Very Good Trip spécial sur France Inter consacré à Betty Davis. On commence par une chanson qui s'appelle Anti-Love Song, chanson d'anti-amour, dans laquelle elle dit à l'homme de façon défiante « Oui, tu vas me faire fondre, mec, mais avec moi, tu vas voir, c'est moi qui vais te faire céder. » Enfin, je paraphrase. No, I don't wanna love you. 'Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. 'Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous. But with me I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. You do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle.
when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge.
Very Good Trip sur France Inter.
People can do without me. that's all folks.
Une énergie presque punk dans ce titre signé par Betty Davis en 1975, Dedicated to the Press, dédicacé à la presse. Oui, on sent dans la voix de la chanteuse une insolence sans filtre, le courage d'apparaître telle qu'elle est. Ben oui, elle a cette manière très punk, je veux dire, cet art, au fond, oui, c'en est un, de transformer sa vulnérabilité en arrogance et même en cri de défi, de hurler « je n'ai peur de rien », tout en se faisant cracher dessus. Parce que c'est ce qui est arrivé à Betty Davis. Elle a subi des attaques très violentes, j'y faisais allusion, de la part d'une certaine presse, des publications propres à la communauté noire, il faut le préciser, des journalistes hommes, femmes, qui ne supportaient pas qu'une femme noire se présente comme elle, vêtue comme une entraîneuse, un mot de l'époque, provocante, sauvage, sexuelle. Et Betty Davis, dans cette chanson, donc dédicacée à la presse, c'est son titre, leur a répondu à sa façon, je la cite, « On dit que je suis vulgaire, que je sers à rien, pourquoi me reprocher d'être comme je suis? On dit que je sors ma langue d'une manière lubrique, mais de quoi il me parle? C'est juste que je ne sais pas comment la garder enfermée dans ma bouche, etc., etc. » Oui, c'est pas l'audace qui manquait à cette femme qui, à 30 ans, savait exactement ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas, et qui avait imposé sa vision, son personnage, sa musique, qui, hélas, ne se sont pas imposées en retour auprès du grand public. Oui, les radios rock blanches américaines trouvait son style trop noir, pas assez polissé. Et quant au programmateur des radios noires, alors ça passait pas non plus, on l'a trouvé trop cru, trop sale, entre guillemets. Et le dernier album que Betty Davis va enregistrer en 1976 ne verra même pas le jour, sa maison de disques préférant le ranger dans un tiroir. Voilà, à la fin des années 70, voilà, c'est fini pour Betty Davis, son tour est passé, les modes ont changé, la profession l'a oublié, mais pas les amateurs de musique qui se passent le flambeau depuis une quarantaine d'années. Oui, Betty Davis a connu une consécration tardive, une petite compagnie de disques qui se consacre à la réédition d'enregistrements oubliés ou sous-estimés, hein, Light in the Attic, hein, ce sont eux aussi qui ont déterré le fameux chanteur de Détroit, Rodriguez, hein, il y a une quinzaine d'années, ont réédité les trois albums de Betty Davis et publié enfin son quatrième album que l'on croyait perdu, c'était à la fin des années 2000, il y a 12-13 ans de ça. Et il y a également un documentaire qui a été consacré plus récemment à Betty Davis, c'était en 2018, hein, je vous en parlais. Betty, deux points, They Say I'm Different, auquel elle a accepté de participer mais sans montrer son visage, acceptant juste de se faire interviewer. En revanche, les auteurs du documentaire ont retrouvé un document exceptionnel, le bref extrait filmé d'un concert que Betty Davis a donné lors d'un festival organisé en France, c'était en 1976, au Castellet, c'est entre Toulon et Marseille, et un festival qu'on avait surnommé le Woodstock français. Il n'existe apparemment aucun autre document filmé d'elle sur scène. Alors il y a plein de choses à raconter sur Betty Davis, je vais le faire bien sûr, mais enfin le mieux c'est sûrement de l'écouter. La voici dans If I'm in Luck I Might Get Picked Up, avec un peu de chance je pourrais me faire draguer. Figurez-vous que Iggy Pop a repris cette chanson il y a une dizaine d'années, ça m'étonne pas de lui, mais enfin là c'est Betty Davis en 73.
Yeah. on a hollow. And this mouth of mine would get very dry now. And my body would have to live in for ya.
Game is my middle name, un blues torride, écrit et interprété par Bette Davis en 1973, un extrait de son premier album, qui n'avait pas de titre, dont l'enregistrement avait été supervisé par un certain Greg Errico, qui n'était autre que l'ancien batteur du groupe californien de blues et soul psychédélique, j'ai nommé Sly and the Family Stone. Errico avait convié le bassiste Larry Graham du même groupe, à l'inventeur de ce qu'on a appelé le style slap, comme frappé à la basse propre au funk. Et puis il y avait aussi le jeune guitariste du groupe Santana, Neil Sean, qui allait bientôt fonder le groupe Journey. Et au cœur, un trio vocal exceptionnel, les trois sœurs Pointer, les Pointer Sisters, originaires de Oakland, la ville qui fait face à San Francisco, de l'autre côté de la baie, où vit une importante communauté noire. Ce qui frappe quand on réécoute cet album, près d'un demi-siècle plus tard, c'est qu'il appartient à une période où rock, soul et funk vivaient encore, si j'ose dire, sous le même toit et ne menaient pas encore des existences séparées. On sait que pour beaucoup de musiciens, les plus ouverts, en tout cas, et heureusement, ils sont largement majoritaires, toutes ces distinctions n'ont pas grand sens. Et en 73, elles n'étaient pas encore totalement claires pour les compagnies de disques, les radios, le public, ce qui explique la liberté qui régnait dans la musique qui se produisait et se vendait à l'époque. Alors, il est peut-être temps que je retrace le parcours de Bette Davis, que je vous raconte un peu comment elle en est arrivée là. D'abord, elle ne s'appelait pas Davis, c'était son nom de femme mariée, je vous dirai à qui, mais Mabry, Bette Mabry. Ses parents étaient originaires du sud des États-Unis, de la région rurale de Caroline du Nord, autour de Durham, où elle était née. C'est une région qui est entourée de vastes plantations de tabac. Elle avait grandi ensuite dans une banlieue industrielle de Pittsburgh, dans le Nord, où ses parents étaient montés, comme on dit. Son père travaillait comme fondeur dans la sidérurgie et sa mère était infirmière. De ses origines, Bette avait gardé un accent campagnard, à une franchise sans détour, qu'on trouve dans les musiques qui l'ont formé, le blues et la country aussi, et la soul évidemment, qu'elle a connue à leur source la plus pure. Elle écrivait déjà des chansons enfants, et la musique était une idée qu'elle avait derrière la tête quand elle a débarqué à New York, c'était vers 1961, elle avait 16 ans, pour y suivre des cours de stylisme. Alors, sa beauté, sa personnalité, son charisme, enfin son audace l'ont vite fait remarquer. Et à 20 ans à peine, eh bien, Bette Mabry s'est retrouvée à animer une boîte de nuit, le Cellar, où elle passait des disques. À l'époque, les disc jockeys étaient simplement des gens qui mettaient des disques sur des platines. Elle parvient à placer déjà quelques-unes de ses chansons chez un éditeur musical. Et parallèlement, eh bien, Bette gagne très bien sa vie comme mannequin dans une agence très connue, Wilhelmina, une expérience qui d'ailleurs lui plaira pas trop. Mais une rencontre va tout changer pour elle, celle de Miles Davis. Ben oui, le grand trompettiste de jazz qu'elle voit jouer dans un club, c'est le coup de foudre. Elle débarque le lendemain chez lui, il est subjugué, il l'épouse. Mais en fait, c'est Bette, devenue Bette Davis, qui va l'influencer lui et non le contraire. Oui, elle va lui faire rencontrer les musiciens qu'elle fréquente dans la boîte, elle les a rencontrés dans la boîte qu'elle anime, Sly Stone, Jimi Hendrix. Elle fait écouter à Miles Davis du rock psychédélique et c'est sous l'influence de Bette que Miles Davis va passer à ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire les débuts du jazz rock, en enregistrement l'album historique, un album qu'il voulait appeler Witch's Brew, le brouet des sorcières, mais que Bette Davis l'a convaincu d'appeler plutôt Bitches Brew, le brouet des chiennes, voilà. Mais c'est pas Miles Davis qui va, en fait, dont elle divorcera d'ailleurs très vite, qui lancera la carrière de Bette Davis, mais un certain Michael Lang. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Ben oui, j'en ai beaucoup parlé quand je vous ai raconté l'histoire de Woodstock. C'était le programmateur visionnaire du célèbre festival qui a lancé Bette Davis via sa compagnie de disques. Il était impressionné par, je cite Michael Lang, sa beauté, sa volonté et ses idées. Voilà, c'est bien résumé. Alors, Bette Davis n'a pas eu de mal à réunir les musiciens les plus brillants qu'elle connaissait, qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, se mettant au service de sa vision. De passage à Londres, Bette Davis a d'ailleurs également failli collaborer avec Eric Clapton, qu'elle avait rencontré, c'était par l'entremise de Jimi Hendrix, et Clapton avec lequel elle eut, paraît-il, une brève liaison. Voilà, c'était difficile apparemment de résister à Bette Davis. Hélas, malgré la puissance novatrice complice de sa musique, très simple et très directe. Et pourtant, malgré la force des groupes qui l'ont accompagné, surtout le sien, Funk House, hein, emmené dès 74, je crois, par le New-Yorkais Carlos Morales, malgré l'intensité de sa présence scénique, malgré la vérité de son personnage qu'elle incarnait de manière incandescente, eh bien, quelque chose ne passait pas. Pour les raisons que je vous ai exposées. Je me rappelle d'ailleurs, enfin c'est un souvenir personnel, avoir vu adolescent la publicité dans un journal anglais pour l'album Nasty Gal de Bette Davis, sorti en 75, et avoir été, bon, enfin voilà, j'étais très jeune, bien sûr, enfin quelque peu troublé, et avoir ressenti aussi une forme de peur. De quoi une femme comme elle n'était pas capable. De fait, elle a maté Miles Davis, ça n'a pas dû être simple. Bette Davis a jamais confirmé que c'est de lui qu'elle avait parlé dans la chanson que je vais vous faire entendre. La chanson étonnante qui s'appelle « He was a big freak », on pourrait dire « c'était un grand malade ». Alors les paroles méritent d'être citées. « Quand j'étais sa maman, je le prenais dans mes bras. Quand j'étais son amante, je le rendais dingue. Je l'attachais, je le fouettais. Oh, ça lui plaisait et ça le faisait rigoler quand je le faisais pleurer. » Bette Davis, « He was a big freak » dans ce Very Good Trip très spécial sur France Inter en hommage à cette femme étonnante.
He was a big freak. When I was his woman, I pleased him, I need him to the tear. When I was his mistress, ooh, ooh, I gave him cheap thrill. When I was his princess, silk and satin and lace I'd wear for him. He was a big freak. Flim, flam, bluesy fantasy. I'd scrub him, I'd love him, I'd cook his meal. When I was his geisha, ooh, ooh, I got down, I'd hug his heel. When I was his flower, I'd answer to the name of Rosemary. He was a big freak. I used to say all kinds of dirty things. Say all kinds of dirty things. He was a big freak. Flim, flam, flimsy, fantasy. He was a big freak. Kept his mind entertained all the time. I get him off with my turquoise chain. His middle name. He was a big freak. He used to laugh when I'd make him cry. He was a big freak. A big freak, yes he was. I used to whip him with my turquoise chain. Oh yeah. I said he was a big freak. A big freak, yes he was. He was a big freak. A big freak, yes he was.
Very Good Trip sur France Inter.
Heart and mind being
The Lone Ranger, une autre facette, voilà, lascive et inattendue de Bette Davis pour terminer ce Very Good Trip spécial consacré exclusivement à cette chanteuse qui nous a quitté récemment et qui vraiment était en avance sur son temps. Voilà, merci à Romain Couturier, à la discothèque de Radio Rose, merci surtout à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, merci à Félix Delacour à la technique et merci à Zora Ben Smiley.